Vous écoutez RTL.
Mais maintenant la curiosité avec Sidonie, avec Thomas.
Oui, on est là Stéphane, salut. On va découvrir le métier de soigneur dans un zoo. Il aide par exemple à la reproduction pour les perroquets. Il met en place des entraînements médicaux. Écoutez bien, où l'on apprend aux singes à recevoir leur traitement sans s'agiter. Et puis comme souvent pour les humains, il y a une récompense à la fin, vous verrez.
Oui, mais quoi
on verra bien.
Et tout de suite sur RTL, un mythe, une star, Jim Morrison.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Riders on the storm,
killer on the road. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
This is the end, my only friend, the end.
Sur RTL, la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la curiosité. On est ensemble jusqu'à 15h et ça va être rock'n'roll, ça va être psychédélique avec la saga Morrison. Bonjour Sidonie.
Bonjour Thomas, bonjour à tous les curieux. Vous le savez, dans cette émission, on aime varier les plaisirs, sauter du coq à l'âne. Ces derniers jours, par exemple, on a mélangé les huîtres avec l'histoire de la radio, Roger Federer et la ville de Marseille, Meghan Markle et les gorilles de la République. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça continue aujourd'hui.
Oui, avec donc les coulisses du zoo de Beauval et puis tout de suite, ce destin brillant et sombre à la fois, ça peut sembler paradoxal, celui de Jim Morrison. Bonjour Eric Jean-Jean.
Bonjour à tous les deux, merci
salut
de m'accueillir.
Eric.
Comment ça va après cette nuit folle?
C'était,
vous avez fêté les 45 ans de nocturne avec Georges Lang hier.
C'était très doux, très chouette et c'était la famille. Merci d'ailleurs à tous les deux d'avoir laissé un message.
Hein.
Je sais que vous étiez présents avec nous, il y avait tous les copains, c'était très beau, voilà, bon. Et c'était très, très chouette.
Et on embrasse Georges Lang évidemment encore une fois. C'est quoi les Doors pour poser le décor? Jim Morrison et les Doors dans l'histoire du rock?
Les Doors autour de Morrison, c'est-à-dire avec Jim Morrison, c'est 6 albums, c'est 100 millions de disques vendus et c'est une météorite romantique, j'ai envie de vous dire, parce que justement les Doors vont exploser, vont être numéro 1 aux États-Unis avec la chanson qu'on entend d'ailleurs derrière qui s'appelle Like My Fire, qui est leur premier single. Et puis tout ça va partir en éclats avec la mort tragique. Et je disais romantique parce que Morrison fait partie de ce fameux club terrible des 27, c'est-à-dire les stars qui sont morts à l'âge de 27 ans.
Les Doors, ce sont quelques tubes inoubliables, absolument indémodables, par exemple Break On Through.
Break On Through!
Eric Jean-Jean, on est en janvier 1967 quand cet album sort, c'est le premier du groupe. Est-ce que c'est un succès immédiat pour Jim Morrison et les Doors?
Ça marche très très vite avec Light My Fire et la chanson que vous venez d'écouter là en extrait Break On Through, c'est probablement une chanson fondatrice pour ce groupe des Doors qui arrive. 1967, rappelez-vous, c'est l'été de l'amour, c'est-à-dire c'est l'été psychédélique. Le LSD est encore en vente libre aux États-Unis. Timothy Leary est considéré comme Nixon comme l'homme le plus dangereux de l'Amérique, sauf que voilà, toute l'Amérique.
C'était qui Timothy Leary?
C'est celui qui a inventé et développé le LSD. Et qui d'ailleurs à un moment voulait se présenter, je sais pas si vous vous souvenez, pour être le gouverneur de la Californie, était défendu par plein de gens, dont les nonnes.
Et cette chanson, Break On Through to the Other Side, ça fait référence à ça? De quel autre côté Jim Morrison veut nous emmener?
De l'autre côté de la perception. Je suis pour une lampe de générescence des sens pour arriver à un autre niveau de conscience. Morrison, il considère qu'il y a deux mondes à l'intérieur de nous-mêmes. Le monde qu'on connaît, puis celui qu'on connaît pas. Et entre les deux, il y a des portes. Alors, les portes de la perception, de Doors, Aldous Huxley, mais pas que lui, il y a William Blake aussi qui ont écrit autour de ça.
Donc, et le nom du groupe vient de là.
Oui, bien sûr. Et franchir les portes de la perception, c'est abuser de substances hallucinogènes et particulièrement le LSD.
Et sur le premier album des Doors, il y a aussi cette chanson.
This is the end, beautiful friend.
Très jolie chanson, This is the end. À qui Jim Morrison dit au revoir?
Il dit au revoir, j'allais dire, à ses parents, parce que cette chanson vaudra à Morrison, avant même que l'album ne sorte, d'être viré du Whisky à Gogo, qui était le bar à la mode à Los Angeles où ils commençaient leur premier concert. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la chanson, on est dans le deep, c'est-à-dire « Father, I wanna kill you ». À un moment, il y a un long pont.
Papa,
comme ça.
« Papa, je veux te tuer ».
Oui, et « Mother, I wanna... » You.
Et ma maman, et je veux te niquer.
Voilà,
c'est bon, c'est
sauf
la traduction.
Ne le dit pas dans la chanson, mais tout le monde l'entend.
Oui, et puis surtout sur scène, suivant les états qu'il avait à ce moment-là, il pouvait le faire. Donc en fait, cette chanson, c'est la présentation oedipienne de ce personnage complexe qu'est Jim Morrison.
Jim Morrison, c'est le leader du groupe des Doors, le chanteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il compose, qu'il écrit tout? Ça se passe comment?
J'ai envie de dire que c'est pas le leader des Doors.
Ah oui.
Le leader des Doors, celui qui qui crée le groupe s'appelle Ray Manzarek. C'est celui qui fait le clavier. Vous savez, quand on a écouté Light My Fire, ça commence par un riff de clavier. Bon, c'est lui le vrai leader. Les Doors, c'est Ray Manzarek, c'est Robbie Krieger qui est le guitariste, et puis c'est John Densmore qui est le batteur. Quant à Jim Morrison, c'est le dernier qui arrive. Il est étudiant en théâtre à Los Angeles. Il est originaire de Miami, mais il a beaucoup voyagé parce qu'il avait un père militaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
On va raconter ça.
Et en fait, il étudie le théâtre à Los Angeles.
Et une belle gueule.
Il a une magnifique belle gueule.
Vous
savez qu'il il a passé les 10 dernières années, c'est-à-dire de 17 ans à 27 ans, défoncé, hein, Jim Morrison. Il a jamais été clair les 10 dernières années de sa vie, c'est-à-dire le tiers de sa vie, le dernier tiers de sa vie. Et donc, il rencontre ces types-là sur le bord d'une plage. Ils sont tous plus ou moins étudiants. Et puis, Jim Morrison, il veut être poète. Il est fasciné par Rimbaud, par Apollinaire. Et donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est de la poésie. Et il trouve comme moyen pour exposer sa poésie dans un premier temps, d'écrire des chansons et en tout cas de plaquer sa poésie sur des chansons.
Jim Morrison, figure de l'Amérique contestataire des années 60, de la fin des années 60. Et vous en avez parlé, Eric, s'il réglait aussi ses comptes avec son père en s'engageant contre la guerre du Vietnam. Récit à venir dans la curiosité.
Toute la journée, vos artistes préférés sont sur la première radio de France.
RTL vous fait découvrir les dernières nouveautés.
Sans oublier vos standards préférés.
On aime la musique sur RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
La saga Jim Morrison dans la curiosité. On découvre les secrets du leader mythique des Doors avec Eric Jean-Jean, une star qui invente sa légende, en fait, qui est une légende, mais qui aussi l'écrit un peu. Il se dit orphelin. Vous nous avez parlé d'une mère et d'un père dont il parle dans Break and Through, dans The End, l'un de ses tubes The End. Il est pas orphelin.
Non, il est pas orphelin. Alors sa maman sera décrite comme une mère très présente et castratrice. Son père est le plus jeune officier de la Navy aux États-Unis, donc son père est un militaire. Et alors il va se passer un truc, c'est-à-dire à l'âge de 4 ans, Jim Morrison assiste à un accident. Ce sont des Indiens qui sont mis en cause et l'un d'entre eux va mourir devant lui et il va se sentir alors possédé par l'esprit du mort qui quitte le corps, etc. Et,
vous allez trop vite. Il a l'impression que l'esprit de cet Indien entre en lui, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, oui. Mais il était déjà bien attaqué. Hein.
Bon, il avait 4 ans.
Oui, bah, il était déjà bien attaqué, c'est ce que je disais.
Avec
toute l'admiration et la fascination que j'ai pour lui. Non, ça n'a pas rapport à son père. Mais en fait, quand il va commencer à devenir célèbre et à donner des interviews, il va dire que ses parents sont morts dans un accident de voiture. D'accord. Et en fait, décrire l'accident dont il a été témoin quand il avait 4 ans. Et donc, voilà, officiellement.
Ils ne sont jamais morts dans un accident de voiture.
Non, ils ne sont pas morts. Ils ne sont peut-être pas vivants encore aujourd'hui parce qu'ils seraient beaucoup trop vieux. mais à la mort de Jim Morrison, ses parents, son frère, sa sœur sont toujours vivants. Et lui, il se déclare comme orphelin. Alors, il y a peut-être plusieurs explications à cela. D'abord, ses mauvais rapports avec ses parents, hein, puisque c'est en partie pour ça qu'il a quitté ses parents qui déménageaient beaucoup. En fait, son père étant militaire, il a passé sa vie à déménager. Il n'était pas très heureux. Il était très solitaire. Il se réfugiait dans la lecture. C'est un intellectuel, hein, vraiment. Jim Morrison, c'est un type très intelligent. Et puis voilà, quand il arrive, il décide qu'il est orphelin. Et en fait, ça va avoir plusieurs conséquences. Notamment le fait que quand il va s'élever comme le porte-drapeau de la contre-culture américaine et surtout contre la guerre du Vietnam, il va y avoir une opposition entre son père qui sert à l'armée américaine au Vietnam et lui qui est vraiment, notamment dans la chanson dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle The Unknown Soldier, où on voit Jim Morrison dans les enregistrements simuler en fait la mort d'un soldat avec un coup de fusil.
On a Unknown Soldier.
C'est le soldat inconnu.
Ouais. Alors, il y a plusieurs explications.
Ça n'a pas un grand succès.
Non, non, mais c'est un disque d'album qui sur scène était toujours absolument fabuleux, c'est-à-dire que ça pouvait durer jusqu'à 10, 11 minutes. Il faut savoir que les concerts des Doors et notamment les prestations de Jim Morrison, il en a raté un sur deux, hein, pour cause de substances, mais quand il était bon, ça devenait de longues diatribes, de longues conversations entre lui et le public. Et donc, le soldat inconnu, c'est ou bien la mort de son père qu'il simule, ou bien sa propre mort, et puis surtout, c'est vraiment une tirade très violente contre la guerre du Vietnam, ce qui va lui attirer des ennuis.
Et il y a aussi un autre concert qui va lui attirer des ennuis. On est à Miami, mars 69. Ça commence mal, il est en retard, il est sous différentes substances et alcool. Qu'est-ce qu'il fait au beau milieu du concert, Eric Grosjean ?
En vrai, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a été accusé d'avoir sorti son sexe devant le public. Sauf qu'aucune photo ne l'atteste. On ne peut pas le prouver. Mais il va quand même être accusé. Il va quand même aller au tribunal. Et il est à deux doigts d'être jugé et d'être fichu en prison. Et c'est très embêtant pour lui. Parce qu'au moment où ça se passe, ils viennent de sortir le dernier album des Doors. D'ailleurs, il n'y aura jamais de tournée parce qu'il va disparaître.
C'est L.A. Woman, c'est
ouais,
ça
L.A. Woman. Ouais. Et en fait, son avocat lui dit, il faut que tu fasses gaffe quand même parce que Nixon veut ta peau. Le président Nixon, il a envie de se débarrasser de cet homme qui lutte sans cesse contre la guerre du Vietnam. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fuir et il va arriver en France.
Jim Morrison qui arrive en France et c'est à Paris qu'il va mourir dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971. On vous raconte la nuit fatale sur RTL et on écoute Light My Fire dans la curiosité. Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Jim Morrison au programme avec Eric Jean-Jean à la baguette pour cette saga musicale. Jim Morrison qui débarque donc en France en 1971. Vous nous l'avez dit juste avant, il a enregistré ce nouvel album studio LA Woman, le sixième des Doors. Et on y trouve notamment ce tube Riders on the Storm.
Riders on the Storm.
En fait, l'histoire dit qu'il travaillait avec Dennis Hopper sur, vous savez, ce fameux film de la traversée des États-Unis avec les Harley Davidson, avec l'époque hippie. Il travaillait avec eux, mais bon, c'était un peu compliqué. Et ce qui va rester quelque part de cette envie de travailler sur ce film qui s'appelle Easy Rider, je cherchais le nom depuis tout à l'heure, c'est cette chanson-là en l'occurrence.
Riders on the Storm. Donc c'est le dernier album des Doors, puisque Jim Morrison meurt à Paris dans la nuit du 2 au 3 juillet.
Qui va être dans des conditions effroyables, parce qu'il est vraiment dans un sale état.
Il est déjà, ce que vous disiez, une décennie de dope, voilà, on meurt à 27 ans. Hein.
Puis
la leçon de l'histoire.
C'est qu'il est vraiment très abîmé, il a arrêté le LSD. C'est-à-dire que les belles photos que vous voyez ont été prises par Annie Leibovitz et puis par une autre photographe avec qui il a fait un espèce de mariage vaudou, Patricia. Et donc les photos où il est très beau, très mince.
Très christique, à moitié nu, torse nu.
Tellement beau, sauf qu'en vrai, quand il arrive à Paris, il fait 20 kilos de plus, il est barbu, il est hirsute, il est très gros et voilà, il arrive pour sauver sa peau en vrai et pour essayer de retrouver sa fiancée Pamela Courson qui est partie un peu avant lui.
Donc Jim Morrison meurt dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971. Qu'est-ce qu'il fait dans les dernières heures de sa vie ? On voudrait vivre ça avec vous, Eric Jean-Jean.
La version officielle, il va avoir un film avec Robert Mitchum. Ensuite, on le retrouve mort dans sa baignoire. Il a mal au ventre. Ça, c'est la version officielle. Pamela dira qu'il avait mal au ventre, qu'il n'était pas bien. Il va prendre un bain, le retrouve mort au milieu de la nuit. Bon, ça,
mort
c'est la
dans
version.
Son bain. Donc,
crise
comme
cardiaque
ça,
dans son bain.
Crise qu'on
cardiaque,
le trouve
ouais, dans son bain. C'est ce qu'on peut voir aussi dans le film d'Oliver Stone sur les Doors, qui est plutôt réussi. L'histoire vraie, a priori, au regard de tout ce qu'on a pu lire sur le sujet, et puis du livre un peu coup de poing qu'a sorti Sam Bernett, qui est un ancien animateur d'RTL il n'y a pas très longtemps, c'est que, en fait, Pamela est donc droguée jusqu'à l'os. Elle a un dealer qui s'appelle Jean de Breteuil, qui est un dealer français, qui travaille avec la French Connection, qui était le dealer français des grandes stars du rock.
Et d'ailleurs, ouverture de parenthèse, ironie de l'histoire, qui a introduit Jean de Breteuil dans le milieu des stars
Robert
américaines.
Mitchum, ouais. Encore lui. En fait, il a grandi au Maroc avec un père qui avait des magazines et des journaux. Puis un jour, ça se ferme, puis le père meurt. Et donc, sa mère, dans la grande maison, décide de faire maison d'hôte. Il y a des stars hollywoodiennes qui viennent, dont Robert Mitchum, qui quand même était le premier américain parmi les stars à fumer de la marijuana. Donc il était déjà pas mal rock'n'roll aux yeux de la famille de Breteuil. Et il prend le petit Jean de Breteuil de passion, il l'amène chez lui, aux États-Unis, à Los Angeles. C'est comme ça qu'il rencontre les stars. Fin de parenthèse. Voilà. Donc en fait, Pamela, elle a besoin de drogue. Et elle demande à son homme, Jim, d'aller chercher de la drogue. Et le rendez-vous est fixé dans une boîte de nuit qui a été montée par Sam Bernett, qui s'appelle le Rock'n'Roll Circus, qui est une espèce de boîte de nuit hippie où ça pouvait jouer en live, il y avait des tapis persans partout, enfin, c'est assez cool. Il y allait très souvent, Jim Morrison. Et donc Jim arrive, et c'est pas Jean de Breteuil qui arrive, ce sont deux messagers qui sont les dealers de Jean de Breteuil, qui lui donnent une drogue qui s'appelle la Pink Chinese. La Pink Chinese, c'est probablement la drogue qui a aussi tué Janis Joplin. Et là, au lieu de repartir à la maison et de donner la drogue à Pamela Courson, il descend dans les toilettes et voilà.
Et la suite, on va vous la raconter parce qu'il a fallu maquiller cette mort. Ouais. Comment Jim Morrison s'est retrouvé dans son appartement parisien. Réponse à venir sur RTL. Et puis juste après...
Ah bon, on va changer complètement d'univers parce qu'on va découvrir les secrets des soigneurs du zoo de Beauval.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Dans la curiosité, le leader des Doors, qui devrait bientôt avoir une rue à son nom dans Paris. La décision a été votée par le Conseil de Paris. Reste à trouver le lieu. On raconte ce destin hors norme, évidemment, avec Éric Jean-Jean. Donc vous nous disiez, la version officielle, il est mort dans sa baignoire d'une crise cardiaque. Mmh. Mais selon toutes les sources, ça s'est passé au Rock'n'Roll Circus, bar branché à Paris. Deux dealers qui lui donnent une drogue beaucoup trop pure. Il fait une overdose dans les toilettes.
En fait, il descend dans les toilettes et il inhale en fait cette héroïne. Alors on ne sait pas s'il pensait que c'est de la cocaïne ou un mélange des deux, etc. Bref, il est mort. Il est dans les toilettes sont fermées. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui vient voir Sam Bernett. C'est lui qui l'a raconté dans son livre, donc je n'invente rien. Et à la fois, je n'étais pas là.
Mais, Sam Bernett, qui était le gérant
qui était un DJ sur RTL à l'époque et qui aussi avait des boîtes de nuit, dont celle-ci. Et donc, il descend, il fracasse la porte, il se rend compte qu'il est mort. Il y a un médecin dans la boîte qui descend et qui confirme la mort. Sauf qu'on est dans une boîte de nuit qui colle une autre boîte de nuit. Je crois que c'est les Folies Bergères. Et les toilettes sont communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve, à l'époque, on est en 1971, si on trouve un mort dans les toilettes communes des Folies Bergères et du Rock'n'Roll Circus, ça ferme.
On ferme les deux lieux.
Ouais.
Donc il n'y aura pas d'enquête?
Ben non, il va pas y avoir d'enquête parce que Bernett et les autres managers du lieu demandent aux deux dealers en question de reprendre Morrison et de se démerder pour qu'il se passe rien dans l'endroit.
Ah, ils en font quoi? Ils le ramènent chez lui?
Il le porte un peu comme un type bourré et il le ramène chez lui. C'est là qu'on le met dans le fameux bain. Et Pamela Courson, évidemment, qui est toujours un peu azimutée, essaye de nettoyer tout ça. Il y a qu'une seule personne vivante aujourd'hui au monde, je crois, qui sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit. Elle s'appelle Agnès Varda. C'était l'amie intime du couple Jim Morrison, Pamela Courson. Et c'est elle, je pense, qui va venir faire le ménage derrière. On va enlever toute la drogue qu'il y a dans cet appartement qui se situe dans le Marais, à Paris, qui était prêté à la famille Morrison par une copine qui était top modèle. Et voilà, et on va tout nettoyer. Et Pamela Courson, l'anecdote est dingue, je la fais vite, va devoir déclarer la mort de Jim Morrison à l'ambassade américaine qui se situe pas très loin de la Concorde. Et elle y va, et elle est morte de trouille, parce que si on sait que Jim Morrison est mort à Paris, il va y avoir une enquête, il va y avoir une autopsie, on va voir qu'il a fait une overdose. Donc elle y va, et elle déclare le mort sous son vrai nom, James Douglas Morrison. Et elle en revient pas parce que le type qui est à l'ambassade, il note et il se rend pas compte que c'est la plus grande star du moment. Et elle ressort quasiment en courant de l'ambassade. Et après, elle va partir au Maroc avec Jean de Breteuil, le fameux dealer, et tous deux vont mourir dans les mois qui suivent.
Merci beaucoup, Éric Jean-Jean.
Vous écoutez RTL.